Comment je crée ? Après avoir lu un article sur la manière dont les écrivains créent, article où l'on analyse les méthodes de travail d'un certain nombre de maîtres de la prose anglaise comme Conrad, Shaw et Barry, le tout accompagné de leurs photographies en culottes de golf en train de martyriser des chiens ou adossés à des cadrans solaires, je m'aperçois que pendant toutes ces années, j'ai fait complètement fausse route. Comme l'intervieweur n'est toujours pas venu m'interroger, probablement parce que je me suis enfermé à clé dans ma chambre et que je réponds pas au coup de sonnette, je vais prendre le risque de raconter comment j'entreprends mon œuvre créatrice en disant quel pourcentage découle exactement de mon inspiration et quel autre du hashish. Il se peut même que je me sente en confiance et je me laisse aller à vous dire quel est mon plat favori. Lorsque j'écris un roman, je dis vivre pratiquement l'existence de mes personnages. Si par exemple mon héros joue à la roulette sur la Riviera, je me convainc de faire mes bagages et je me rends à Cannes ou à Nice, bon gré mal gré. Là, je me jette dans le tourbillon des joueurs jusqu'à avoir réellement l'impression d'être Paul Delacroix, Ed Whelan, en tout cas mon héros, quel que soit son nom. Bien entendu, ça me coûte de l'argent, il arrive parfois que je me trouve dans l'obligation de changer le caractère de ce héros, d'en faire un clochard qui travaille sur un bateau de cabotage pour payer son passage de retour en Amérique, ou un jeune étudiant fauché qui vit d'expédients jusqu'au moment où ses amis lui envoient 10 dollars d'Amérique. Un de mes héros, Dick Markwell, dans Le Bonjour de l'amour, après avoir débuté en homme du monde new-yorkais qui tenait bien l'alcool et présentait toutes les caractéristiques extérieures d'une infatigable machine de plaisir, s'est ainsi vu transformé en pensionnaire d'un hospice local que ses plus vieux amis ne reconnaissaient pas et qui plus est refusait de reconnaître. Mais comme vous le rappelez sans doute, c'était un petit peu tiré par les cheveux. Vivre réellement la vie de ces personnages prend beaucoup de temps et rend difficile d'écrire quoi que ce soit. Je n'ai pu commencer à travailler que du jour où je me suis décidé à écrire des histoires de vieux bonshommes qui passaient leur temps à éplucher des noix dans leur chambre de bonne. Bon, ça donne certes pas des romans très très intéressants, mais au moins l'ombre de mots y est et j'ai quelque chose à donner aux éditeurs en échange de l'argent qu'ils m'ont avancé. Les éditeurs sont des gens bizarres, ils demandent du texte, encore du texte, sous prétexte qu'ils vous ont avancé 300 malheureux dollars 2 ans auparavant. Et maintenant, vous voulez savoir comment je travaille et comment l'inspiration vient? Je vais vous le dire. Poussez un peu votre chaise et laissez-moi mettre les pieds dessus. Ah, ça va mieux. Maintenant, vous pouvez aller joyeux. Eh bien, je dois très souvent attendre des semaines et des semaines que vienne ce que vous appelez l'inspiration. Dans l'intervalle, je reste assis avec ma plume d'oie suspendue au-dessus d'une feuille de peau de cancre au cas où la divine étincelle surviendrait comme la foudre, me renverserait de ma chaise et me ferait tomber sur la tête. Ah ouais, ça m'est arrivé plus d'une fois. En attendant, je me creuse la cervelle pour savoir ce que je vais faire de mes personnages. Dois-je marier Mildred et Lester? Ou Lester et Evelyn? Qui est Evelyn, me dis-je souvent, car c'est la première fois que j'entends parler d'elle. Vais-je faire gagner la révolution au prolétariat français, ou Louis XVI reviendra-t-il soudainement installer au pouvoir un gouvernement décoalisé? Puis-je décemment laisser État faire cette vaisselle dans l'évier et mettre ses gâteaux au four? Ou ne ferais-je pas mieux de la laisser se balancer d'un pied sur l'autre pendant encore une année ou deux? Vous n'avez pas idée du nombre de problèmes auxquels un écrivain doit faire face pendant les jours fiévreux où il élabore son roman. Vous n'avez pas non plus idée de la manière dont il les résout, d'ailleurs, pas plus que lui du reste. Il m'arrive parfois, alors je me trouve dans les affres de la création, de me lever le matin, de jeter un coup d'œil à mon bureau encombré de vieilles notes de fournisseurs, de gants dépareillés, de bouteilles de ginger ale vide et de retourner aussitôt me coucher. Après quoi, c'est de nouveau la nuit, et l'heure où le marchand de sable fait sa tournée, on a trouvé un marchand de sable qui passe 2 fois par jour, c'est très très pratique, on lui donne 5 dollars à Noël. Même une fois levé et revêtu d'une partie de mes vêtements, je travaille toujours en jupe de paille hawaïenne et en nœud papillon, couleur neutre. Il m'arrive souvent de rien trouver d'autre à faire que de prendre les livres qui se trouvent à un bout de la table pour les pousser à l'autre bout de la même table puis de les envoyer promener un par un sur le plancher à coups de pied. Mais pendant tout ce temps-là, mon cerveau travaille, et l'intrigue prend forme. Elle prend souvent la forme d'une cucurbitacée. D'autres fois, une forme que j'ai jamais pu tout à fait identifier, celle d'une sorte d'objet amorphe, bicéphale, sans visage. Quand la seconde apparaît, je retourne aussitôt me coucher, pas si bête. En travaillant, je trouve dans la pipe une grande source d'inspiration. On peut la mettre en travers du clavier d'une machine à écrire de manière à ce que les touches ne fonctionnent pas du tout, ou bien en faire sortir de tels nuages de fumée qu'il devient absolument impossible d'apercevoir la feuille de papier. Puis il y a le fait de l'allumer. Je suis capable de faire de l'allumage de la pipe un rituel dont la complexité n'a jamais été égalée depuis la fête des 5 jours du dieu des moissons. D'abord, étant donné les 26 années pendant lesquelles j'ai constamment fumé la pipe sans jamais devoir une seule fois faire appel à un plombier, l'espace creux qui reste dans le fourneau a aujourd'hui à peu près la taille d'un port de la peau. Une fois l'allumette appliquée au peu de tabac qu'on peut introduire dedans, la fumée disparaît, ce qui nécessite un nouveau remplissage, un nouvel allumage et plusieurs coups frappés sur le rebord de la table. Cogner la pipe peut prendre autant d'importance que la fumée, surtout s'il y a des gens nerveux dans la pièce. Un bon coup de pipe savamment donné contre une corbeille à papier métallique et en moins de temps qu'il en faut pour le dire, un neurasthénique quitte son siège et saute par la fenêtre. Les allumettes, elles aussi, jouent leur rôle dans l'élaboration de la littérature moderne. Avec une pipe comme la mienne, la quantité d'allumettes brûlées quotidiennement pourrait être mise en flottage sur le Saint-Laurent avec 2 hommes montés dessus. Une fois le roman terminé, Il est envoyé aux ateliers de découpage et de reliure, où les femmes indigènes en font de grands rouleaux qu'elles piétinent de leurs pieds nus, ce qui explique l'aspect étrange de quelques-uns de mes romans. Il est ensuite transporté à la salle de séchage, où il est réécrit par un jeune homme que j'ai engagé à cet effet, puis on l'envoie chez l'éditeur, après quoi il m'est retourné. Vous voyez donc comment opèrent les artistes créateurs. En réalité, ça ressemble à aucun autre genre de travail, parce que c'est la procède d'un grand bouleversement émotionnel au sein même de l'âme de l'écrivain. Si ce grand bouleversement émotionnel n'a pas lieu, il peut découler du travail de n'importe quel autre auteur se trouvant à portée de la main, un bouleversement que finalement il n'est pas trop difficile d'imiter.